oncologue, tu es associé au laboratoire du Cresson. Tu as travaillé sur les relations entre l'humain et l'animal. Tu as travaillé sur les gestes d'art. Tu as travaillé sur le compost.
Sur les déchets.
Sur les déchets, ouais.
Sur l'écoute, un peu. Alors, ouais.
Et là, tu vas nous présenter donc des travaux autour de l'écoute à partir d'un point de vue psychologique.
Ah, tu sais où tu as les notes.
Donc là, il est 11h40. Je pense qu'on va essayer de terminer à 12h30 pour au moins qu'on ait une heure de pause pour manger. Puisqu'après, il faudra reprendre à 13h30 les conférences et terminer pas trop tard pour pouvoir aller ensuite au théâtre Sainte-Marie d'en Bas.
Je te mets comme ça.
Peut-être qu'on pourra faire un petit point après. Mais qui est dans le centre-ville de Grenoble et il y aura une soirée d'écoute. De 19h à 21h, 22h.
Oui, c'est ça.
Donc voilà.
Ça m'arrive pas.
On va essayer de ne pas trop déborder sur.
Est-ce qu'il y a des endroits pour manger ?
Ici ? Oui, ici, il y a de quoi manger.
Il y a une cafette à l'école, ouais. Ouais.
Sinon, il y a quelques petits. qui restent autour. Mais on fait le point.
Ouais, on fait le point.
Alors, bonjour.
Je sais pas si tu veux.
Ah oui, ouais, peut-être. C'est mieux. Je m'assieds.
Ouais.
Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez ? J'avais pas les micros du tout. Alors, moi, je vais, comme Paul a dit, moi, je suis anthropologue. Je vais vous parler moins de lieux hospitaliers et plutôt des questions de l'écoute hospitalier. Alors vraiment, c'est une petite réflexion épistémologique, un peu théorique, j'espère pas trop. Mais toute l'idée, c'est d'ouvrir un vocabulaire pour penser à l'écoute et de faire une sorte de un pas de côté sur l'écoute, qui rejoint un peu la question de l'inouï qu'on a mis au début de la présentation de ce Winter School, où l'inouï, c'est pas l'innovant, c'est pas le nouveau, c'est en fait ce qui est en deçà de nos habitudes ordinaires. En fait. Voilà, alors je vais commencer avec un tout petit ouverture sur ce que c'est l'anthropologie. On commence avec The Argonauts of the Western Pacific, qui était un bouquin de Bronislaw Malinowski, qui est d'une manière, on pourrait dire que c'est le premier véritable monographe ethnographique, qui s'est passé un peu par accident. C'était un citoyen polonais qui faisait sa thèse à l'université à Londres. Il est parti pour la Nouvelle-Guinée et c'était juste au moment de la Première Guerre mondiale. Et comme ressortissant polonais, alors parti de l'ennemi, d'un endroit du monde qui était contrôlé par les Britanniques, il était incarcéré. Alors tout son travail de terrain a changé. C'était un moment où l'anthropologie était pour la plupart incrustée dans les départements de biologie, avec tout un travail de terrain, de mesure, de collecte, qui était aussi incrusté dans toute la machinerie coloniale, impériale de ce temps, alors britannique, français, un tout petit peu allemand, États-Unis. Et avec Malinowski, en fait, il s'est retrouvé sur les îles de Trobriande et il n'avait pas le droit de partir. Alors, presque un premier pour un anthropologue, il a appris la langue. Il a commencé à parler avec les gens, manger avec les gens, aller chasser avec les gens, de faire partie de la vie communale. Il a beaucoup de limites là, mais en même temps, c'est le moment où la question de fait-auteur, de travail de terrain, comme forme d'immersion et d'apprentissage, c'est formulé. Et ça permettait ce qu'ils ont appelé une forme de savoir dans le langage du temps, from the native's point of view, du point de vue de l'autochtone. Une point de vue, soi-disant, de l'intérieur. D'une autre communauté, d'une autre culture, d'une autre cosmologie. Alors, et ce que ça a débouché à une autre forme d'écriture, qui est le monographe ethnographique. Et ça, c'est une citation de Marilyn Strathern, qui a beaucoup réfléchi sur cette forme qui a pris l'anthropologie moderne du XXe siècle, qu'elle prend comme une sorte de science-fiction. Alors, tout l'enjeu de l'anthropologie, après Malinowski, c'est d'aller apprendre une autre manière de vivre, et là, c'est toute une formulation complètement occidentale, mais d'aller à la rencontre d'une altérité, on pourrait dire, d'apprendre de vivre autrement, et ensuite de revenir et de traduire cette expérience dans les mots, dans tout le vocabulaire qui était dans l'anglais, dans le français. Alors, de donner au lecteur un goût, une expérience de ce que c'était d'être là et de vivre là. Alors, Strathern parle de l'anthropologie comme une forme de science-fiction. Et toute l'idée là, c'est pas de nous donner un autre monde par son exotisme, par toute sa distance de notre mode de vie, mais en fait de nous donner une autre forme de normalité, une autre forme du quotidien, du banal presque, d'une autre manière de vivre. Alors pas d'exotiser le sujet, mais de presque l'inverse, de nous donner qu'est-ce que c'est d'y habiter là et d'y habiter comme ça. Et tout ça, ça nous donne au public occidental une forme de science-fiction, un point de vue autre qui nous donne ce que l'anthropologue Tillinghold appelle the sideways glance of anthropology, la sorte de vue périphérale de l'anthropologie, qui pourrait être une autre manière de vivre le monde, d'habiter le monde. Alors c'est une forme de provocation de nos habitudes. Ça, c'est tout l'enjeu de l'anthropologie. Voilà, alors on commence avec ça. Ça, c'est d'une manière où l'anthropologie, toute la machinerie du travail de terrain, de l'anthropologie du XXe, qui a nourri toute une longue débat disciplinaire sur ce que c'était ce savoir, ce que c'était ce savoir situé. Voilà, alors, maintenant je saute un peu. Ça, c'est une petite citation dans un livre de Tillinghold qui se trouve là-bas, qui s'appelle Perception of the Environment. Alors, Tillinghold, c'est un anthropologue anglais qui a beaucoup travaillé avec les Samis au nord du Finlande. Là, c'est dans ce bouquin qu'il commence à faire une anthropologie beaucoup plus grande, moins une ethnographie ethnographique. Monographie ethnographique est plutôt une sorte d'anthropologie qui se veut un peu comme l'anthropologie française, un peu la philosophie avec des gens dedans, comme il raconte. Mais là-dedans, il prend une citation d'une ethnographie de Halawa avec les Ojibwa, qui sont une communauté, First Nation community, dans les plaines des États-Unis. Je ne sais pas si vous pouvez... Ouais, je vais le lire. Ça me paraît bizarre comme j'ai écrit. Un homme et une femme, tous les deux vieux, sont assis dans leur tente et une tempête fait rage à l'extérieur. Il y a du tonnerre et des éclairs. Le tonnerre éclate en une série de claquements. Le vieux homme écoute attentivement, puis il se tourne vers sa femme et lui demande d'un ton tout à fait décontracté: « As-tu entendu ce qui était dit ?»« Non, » répond-elle, « je n'ai pas compris. » Alors dans le chapitre d'où elle se trouve, cette citation est mobilisée par Ingol pour nous provoquer, encore une fois, de nous donner une sorte de phénomène qui, pour nos manières habituelles de penser ce que c'est l'écoute, ce que c'est le langage, ce que c'est les savoirs, est un puzzle. Comment comprendre ça? Comment ça peut être normal, ça? Alors, ce qu'il fait, d'une manière, dans ce chapitre, c'est de critiquer nos manières occidentales hégémoniques de penser à ce que c'est l'écoute. Alors là, c'est, ouais, j'ai mis deux diagrammes, mais beaucoup vient de Claude Shannon, le travail de Claude Shannon dans les années 20, 30, 40, qui était un des fondateurs de cybernetics, qui était relié à la fois, ouais, c'était toute une science d'ingénierie, mais qui nous a donné le téléphone, l'Internet. Tous nos moyens de télécommunication sont fondés sur ces modèles. Mais c'est aussi un modèle qui fait pont, on pourrait dire, entre les sciences de l'humain, et surtout la psychologie, et puis les ingénieries de son. Et là-dedans, ce que c'est la communication, c'est le cerveau qui parle à travers un médium. Il y a un message, un médium. Le message est une sorte de forme qui est encodée dans un médium et après décodée par une autre tête. On est dans un monde de tête. Et même pas de tête, mais de cerveau. Même pas de cerveau, mais de logiciel, presque. Alors ça, c'est le monde, d'une manière, le common sense. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais le sens commun, ouais, de ce que c'est l'écoute dans nos manières de penser le monde. Où il a à la fois une intériorité du sujet et une extériorité du monde matériel. Là, on est vraiment dans la grande bifurcation, la grande division de ce que Descola appelle le régime naturaliste, la cosmologie naturaliste. Où la communication devient un processus d'encodage et de décodage. Alors, tout un vocabulaire hyper technique, en fait, pour penser. Et moi, j'ai fait mes premières études en psychologie expérimentale, et c'était tout à fait ce modèle cognitif de ce que c'est l'humain que j'étais baigné dedans. J'ai aussi fait la biologie, qui me donnait un autre versant de la même chose, plutôt extérieur, du sujet animal. Voilà. Alors, il a une sorte de coupure. C'est un monde où il a l'objectif et le subjectif. La communication commence par le subjectif, part dans l'objectif, remonte dans le subjectif. C'est ça, c'est un peu à l'image de la communication comme quelqu'un sur une île déserte qui lance une bouteille avec un message dedans. Ça se balance sur la mer et puis quelqu'un d'autre le reprend, le décode, voilà. Alors, là, pour sauter à un autre exemple, alors ça c'est Proust qui écrit juste au moment au développement du téléphone. Et il inclut le téléphone pas mal dans ses langues que j'ai pas lues dans leur entièreté du tout. À la recherche du temps perdu. Le téléphone fait apparition plusieurs fois. Et là-dedans, ce qui met en avant, c'est tout. Le téléphone n'est pas un objet neutre. Il ne nous donne pas juste un message comme ça qu'on peut décoder comme tout autre. C'est tout un dispositif d'écoute, une prothèse d'écoute qui change le monde sonore. Et là-dedans, il part de l'expérience d'appeler sa mère. Et à un moment donné, puis tout d'un coup, c'est comme si tout le monde s'étant allé de la chambre, il tombait dans les bras de sa mère. Bien là, tout contre lui, si douce, si fragile, si délicate, si claire, si fondue, un petit morceau de glace brisé, la voix de sa mère. « C'est toi, mon chéri ?» C'est comme si elle lui parlait pour la première fois. Comme s'il la retrouvait après la mort dans le paradis, car pour la première fois, il entend la voix de sa mère. Alors bien sûr, il a entendu sa mère depuis qu'il est né, mais il a un moment où le téléphone, où l'expérience d'entendre sa mère à travers le téléphone, lui donne la voix de sa mère comme pour la première fois, tout seul, comme ça, isolé. Alors c'est tout un dispositif d'écoute qui a rien de neutre. Alors là-dedans, ouais, alors c'est pour donner un peu de corps, de descendre de ces cerveaux, de ces logiciels qui flottent comme ça dans l'espace, pour revenir à ce que nous sommes, nous sommes des corps, avec toute une série de dispositifs qui font nos mondes autour de nous, dans le téléphone et tout le reste. Pourquoi j'allais là ? Ah ouais, ça c'est un photographe de Robert Landsberg, de Mount St. Helens, dans les années 80. En fait, ça, c'est le dernier photographe qu'il a pris. Après, il a mis la caméra sous lui et puis il est mort. On s'est levé de... Enfin, c'est toute une série de photographes complètement incroyables qui nous donnent le moment de l'explosion de ce volcan. Alors, je l'ai mis là, sans y réfléchissant. Mais pour arriver à une forme de... une modèle d'écoute qui n'est pas celle de Shannon Weaver, une sorte de disembodied listening, mais à une forme d'écoute qui remet l'écoute dans nos manières de vivre le monde, comme Céline nous a parlé, nos manières d'habiter le monde, qui sont à la fois corporelles, processuelles, ils se font dans le temps, affectif. Et là, au moment d'une explosion de volcan, c'est pas comme un sort de code, c'est mis dans l'air et il y a une sorte de forme de décodage qui se font dans le cerveau et tout à coup on reçoit le message, ouais, il y a un volcan qui est en train d'exploser. En fait, si on suit l'écoute depuis l'expérience vécue, ce que l'écoute nous donne, c'est un événement. C'est quelque chose qui se passe. Et l'écoute se fait toujours entre deux. Dans une forme de relation. Une forme d'expressivité du monde. Alors, pour Ingold, lui, il part de l'écoute d'abord comme une pratique. Ce qui est très très important. L'écoute, l'oreille, comme tous les sens, c'est pas quelque chose de donné. Ça ne nous donne pas le monde comme tel. C'est plutôt une pratique qu'on apprend, même avant la naissance, en fait. Il y a plein d'études qui donnent à voir, ou qui donnent à entendre, à quel point l'écoute du nouveau-né a été baignée et sculptée par l'ambiance sonore à l'intérieur de la ventre de sa mère. Alors c'est une pratique qui s'apprend. Et dès qu'on a une pratique qui s'apprend, il y a bien sûr une pluralité. Tout de suite. On apprend de plein de différentes manières. Ok, alors d'abord, première chose autour d'une écoute hospitalière, c'est qu'elle est plurielle. C'est pas une écoute, mais des écoutes. C'est toujours déjà pluriel. Ingold insiste sur la question que le support et le message ne font qu'un. On ne peut pas les désimbriquer. On ne peut pas juste prendre la forme d'un message pour laisser la matière du monde. En fait, les deux sont complètement imbriqués. Et là, ouais, je vais pas y aller trop là-dedans. Mais c'est là où il rejoint, d'une manière, les travaux du Cresson, où il se penche sur les travaux sur la question d'atmosphère, ou atmosphère en anglais, qui sont proches de celles des ambiances, mais pas tout à fait, ils se rejoignent pas complètement. Mais pour Ingold, la question de l'écoute est toujours atmosphérique. C'est un attribut du monde, en fait, dans lequel nous vivons. Et que le son est aussi la réverbération de l'être. C'est ce que Céline parlait avant. Tout affect, tous nos états d'âme sont expressifs. Ils ne sont pas intérieurs. Alors là, on casse un peu cette sorte d'intériorité radicale du sujet qu'on retrouve dans ce modèle. D'une manière, nos états d'âme sont toujours expressifs, font partir de... Ouais, s'imposent, prend place dans un espace, dans un événement. Quatrièmement, le monde est polyglotte. Plein de différentes façons de parler et d'écouter. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez... Non, c'est nul. J'ai mis tout petit, sur un tout petit écran. Alors ça, c'est un tableau de Bruegel. Dans le master, ils ont déjà vu celui-là. Je l'utilise pas mal. C'est aussi dans un article de Tim Ingold qui s'appelle « La temporalité du landscape ». Ouais. « The temporality of the landscape ». Où il utilise ce tableau de Bruegel qui est sur la moisson pour parler de ce qui fait société. Et d'une manière, ce qu'il critique là, c'est toute la tradition du landscape painting, du paysage, et de comprendre ce que c'est le paysage par la vue. Et ce qu'il essaye de nous donner, c'est de, par un tableau, qui est un peu paradoxal, mais de faire une sorte de, d'observation haptique ou écoutante de ce tableau, où il nous donne à voir comment ce paysage n'est pas juste à l'étendue du pays qui est donné à l'observation, mais plutôt ce qu'il appelle un tasscape. C'est pas joli en anglais, c'est encore moins joli en français, c'est qui a été traduit en paysage de tâches. Mais ce qui met l'accent dessus, c'est une question d'activité. Ce paysage n'est pas juste une forme donnée, c'est quelque chose en formation continue. Et cette formation est, oui, humain. Là, on voit les meçonniers qui sont en train de couper le blé, de manger, de dormir. Plus au loin, on a les villages. Encore plus loin, des bateaux dans la baie, tout le reste. Ça nous donne à voir toutes nos manières humaines d'habiter le monde, de faire monde. Et en habitant, on le fait, on le pratique, on le façonne. Mais c'est aussi la place des animaux. On ne voit pas du tout là, mais il y a un oiseau dans les arbres. C'est la place du végétal. Les blés, bien sûr, comme un sort de forme d'espèce compagnon de l'humanité, avec laquelle on a fait société. On peut pas penser nos sociétés ça dépend, mais 10 000 ans, 5 000 ans, sans ces présences de végétales domestiquées qui ont complètement changé nos manières de vivre. Alors c'est pas que le vivant domestique aussi sauvage, là il a tout un jeu de l'espace domestiqué et l'espace non domestiqué là-dedans, où le domestiqué s'étend presque partout, mais pas tout à fait partout. Mais il a aussi le géologique, il a aussi l'atmosphérique, il a aussi l'hydraulique, la place de l'eau, de l'air, de la terre. Et tout ça, c'est des choses en mouvement. Comme Céline l'a dit, c'est toutes des choses en mouvement, en activité. Et d'une manière, c'est une vision, cette notion du paysage en mouvement. Et pour d'une manière de se déplacer, d'une manière d'une sorte de priorité à la vue, à celle de l'oreille. Et ce que l'oreille nous donne, c'est toutes les activités qui sonnent à ce moment-là. Les activités sonnent. On peut les entendre. Alors tout ça, c'est toute une pluralité que je viens de parler. C'est toute une pluralité de modes d'expression, où le vent est tout aussi expressif que l'homme qui ronfle sous l'arbre. Il y a tout un jeu de ceux qui participent. Alors là, c'est vraiment d'ouvrir un paysage comme une autre manière de parler société, en fait. Société, c'est pas que les humains, c'est toute une manière de faire monde polyglotte. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Et que ces manières de parler sont bien sûr aussi des manières d'écouter. Alors il y a toute une pluralité d'écoute de l'humain, entre humains, mais aussi entre humains et autres formes d'animal. Est-ce que le végétal écoute ? C'est une bonne question. Et que toutes ces formes à la fois de parler et d'écouter ne sont pas symétriques. Toute cette pluralité n'est pas unifiée. C'est toute une différenciation, une pluralité. Et qu'on ne peut pas penser ce que c'est l'hospitalité sans penser à cette pluralité. Et là, Céline nous a donné tout un vocabulaire pour penser, et d'une manière on rejoint toute cette notion d'une écologie sonore, qu'en fait, contrairement à la vue, ce qui nous est donné par l'oreille, si on était là sur cette colline, et pas juste donné, et pas juste tout d'un coup. En fait, si on va par l'oreille, on doit pister ce qui se passe. Et quand on piste, qu'en fait, tout n'est pas donné à un moment instantané. Il faut aller à la recherche de ce qui fait son, de ce qui fait activité, de ce qui fait paysage. Alors il faut aller à la rencontre de cette pluralité. C'est pas juste quelque chose qui se montre comme ça. En fait, là-dedans, c'est pas juste un sphère, c'est toute une série de sphères, toute une écume de sphères, ou de petites niches qui se fait. Ouais, j'ai parlé trop. Mais je voulais juste faire mention pour essayer de faire le lien avec la présentation de Céline et aussi la question de l'urbain et du naturel. Là, on est dans le paysage, dans le rural. Il a un article très chouette de Bruno Latour des années 90 qui s'appelle Interobjectivité, où il reprend un peu la sociologie dont Céline a parlé, de l'ethnométhodologie, du social, de l'intersocial, du face-à-face. Et lui, il fait la distinction entre la société babouin et la société humain. Ce qui fait la différence là, c'est pas l'intersubjectivité. Il y a plein de face-à-face dans la société babouin. En fait, on peut que penser la société babouin comme une série de face-à-face. Une société qui se fait et se refait continuellement dans tous les échanges, toutes les interactions entre babouins. C'est quoi la différence avec la société humaine ? C'est pas ce face-à-face, c'est en fait ce qu'il appelle l'interobjectivité. Mais tout ce qu'en anthropologie on appelle la culture matérielle. Toutes les choses qu'on fabrique. Et en les fabriquant, fabrique le monde et nous fabrique. C'est tout un... Alors là, c'est les habits, oui, mais c'est aussi les tables, c'est aussi les murs. Et on peut penser à cette culture matérielle, des débuts des hominidés jusqu'à maintenant, comme une série de technologies pour faire des sphères. C'est un peu pour nous donner, pour différencier l'espace et de proliférer les niches ou proliférer les sphères ou les coquilles ou les cocons, de proliférer toute une série d'espaces où le social se négocie et d'une manière de différencier, de proliférer les formes de social, de nous donner toute notre culture matérielle est en fait moteur du social et moteur de la différenciation sociale. Et qu'on ne peut pas penser le social, la politique, sans penser prendre en compte les murs, les habits et tout le reste. Alors il a cette manière d'essayer de tenir tout ça ensemble quand on parle de ce que c'est, ce que fait société. Et là, pour reprendre Ingold, il sera un article beaucoup plus récent de l'année dernière, où il parle de ce que c'est le son. On devrait pas parler d'un corps avec des oreilles, mais plutôt de parler d'un corps-oreille. De penser de l'oreille comme une manière de penser plus largement, de manière sensible d'habiter le monde. L'oreille signifie plutôt l'attention de tout un corps qui est, pour ainsi dire, en état d'alerte auditive, qui est ouvert au monde par l'oreille. Ainsi, au lieu d'être un corps avec des oreilles, il devient quelque chose comme un corps-oreille. Alors, quand nous écoutons les sons de la nature ou du monde, ce n'est pas une façon pour nous de prendre possession du monde. C'est plutôt la façon dont le monde lui-même prend possession de nous. Ce faisant, il nous permet de prêter nos propres oreilles à ce qui se passe et ainsi de donner une voix à la nature elle-même. Alors, il y a tout un jeu de ces questions de possession. Je ne vais pas y aller là-dedans, mais c'est tout relié à ce que c'est le sujet. Et là, si on se prend comme des corps-oreilles, ça déplace toutes nos manières de penser ce que c'est l'écoute, ce que c'est les savoirs. Et là-dedans, ouais, voilà le cliché de Magritte autour de « Ceci n'est pas une pipe », qui est tout un jeu sur nos habitudes. Ce que Alfred Whitehead parlait en anglais, « The fallacy of misplaced concreteness », qui était commis chaque fois que nos abstractions sont prises pour des faits concrets du monde. Et ce que je veux mettre en avant, ce n'est pas nos abstractions comme nos idées, mais que si on passe par l'écoute, on voit à quel point, c'est ce que j'ai dit avant, L'écoute, c'est une pratique. Et une pratique se fait par le biais d'habitudes. On a des habitudes d'écouter. On voit la puissance de ces habitudes dans un phénomène qui s'appelle the cocktail effect, the cocktail party effect. L'effet je ne sais même pas comment dire ça, la fête de cocktail. Ou dans une salle comme ceci, quand tout le monde parle, mais on parle avec quelqu'un devant nous, il y a toute une cacophonie en fait. Mais notre oreille, il filtre. Et on a une capacité à mettre en avant et de mettre en arrière, de mettre en avant une voix et de mettre en arrière toute une autre. Ouais, tout le reste du cacophonie. Et c'est cette capacité de laisser place à une chose et de mettre en arrière les autres qui nous donne à quel point l'oreille n'est pas passive, l'oreille est active. Et c'est ça, d'une manière, tout l'espoir de l'oreille et aussi toute sa difficulté. Parce qu'en fait, nous, on arrive ici avec une oreille déjà préformatée, on pourrait dire, avec toutes ses habitudes. Alors, tout l'enjeu de passer par le terrain avec nos oreilles, c'est de trouver des moyens de déshabituer notre oreille, d'essayer de déjouer nos habitudes d'écouter. Alors, d'une manière, ce que le Cresson a beaucoup, beaucoup travaillé, par le biais des prothèses auditives. Là, on avait le téléphone avant, mais on peut aussi parler de microphones. En fait, les microphones, c'est tout un dispositif très, très puissant pour déplacer nos manières d'écoute. Dès qu'on met, ouais, ça dépend mais un micro comme ceci, qui nous donne une ambiance, a une manière d'aplatir l'ambiance sonore. Ou on déjoue nos manières d'habiter le monde. Et assez souvent, quand on enregistre un lieu très très familier, et après on le réécoute par ce dispositif-là, qui passe par un microphone après les enceintes, on retrouve un monde qui ne nous est pas très familier en fait. Ça nous déplace notre écoute. Tout à coup, on entend l'autoroute qui était complètement insensibilisée ou invisibilisée dans notre manière d'écoute. Ou la manière dont la plomberie fait toujours une petite musique, quoi. Il y a plein de différentes manières. Alors, d'une manière, c'est ça qu'on va expérimenter cette semaine, c'est d'expérimenter une écoute hospitalière. Alors, essayer d'ouvrir nos oreilles. Et d'ouvrir nos oreilles pour aller à la rencontre de l'existant, de ce que c'est le campus. Ce que c'est ce campus dans cette vision de ce paysage, en fait. Un campus qui est défini par toute une série de différents endroits, différentes niches, différentes formes de communautés, qui se manifestent pas facilement, qui se manifestent pas à première vue. C'est quelque chose qu'il faut aller pister. Et en les pistant, il y a une sorte de double jeu de rencontres. Ouais. Ouais, je ne vais pas parler de ça. On va finir par un petit film de Amanda Bags, qui est une activiste militante dans la communauté qui essaye de déjouer des formes d'hégémonie de neurotypicité. La manière dont on a, comme société, d'invisibiliser des manières autres de vivre ce monde. Alors, Amanda a été diagnostiquée comme autiste profonde, avec beaucoup de troubles de communication. Et ce film qu'elle a fait en 2007, s'appelle In My Language. Alors ça rejoint ces questions de monographe ethnographique comme une forme de science-fiction. Là c'est pas, ouais, c'est peut-être un peu, c'est, pas bien de... Ouais. C'est peut-être pas une bonne manière de décrire ce que Amanda fait là, mais ce qu'elle essaye de nous faire, c'est de nous déplacer. De déplacer nos manières habituelles à voir le monde, à voir la diversité, à voir des choses qui ne rentrent pas dans le normal. Et de déjouer nos manières de dévaloriser ou même d'invisibiliser des autres manières d'écouter et de négocier le monde. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Alors, c'est un film en deux parties. La première partie est juste sans narration, sans voix off. Dans la deuxième partie, c'est la même chose, c'est une reprise, mais avec un voix off, sans voix qui nous, d'une manière, fait la traduction. Essaye de...
The previous part of this video was in my native language. Many people have assumed that when I talked about this being my language, that means that each part of the video must have a particular symbolic message within it, designed for the human mind to interpret. But my language is not about designing words or even visual symbols for people to interpret. It is about being in a constant conversation with every aspect of my environment, connecting physically to all parts of my surroundings. In this part of the video, the water doesn't symbolize anything. I am just interacting with the water as the water interacts with me. Far from being purposeless, the way that I move is in a going response to what is around me. Ironically, the way that I move when responding to everything around me is described as being in a world of my own, whereas if I interact with a much more limited set of responses and only react to a much more limited part of my surroundings, people claim that I am opening up to true interaction with the world. They judge my existence, awareness, and personhood on which of a tiny and limited part of the world I appear to be reacting to. The way I naturally think and respond to things looks and feels so different from standard concepts or even visualization that some people do not consider it thought at all, but it is a way of thinking in its own right. However, the thinking of people like me is only taken seriously if we learn your language, no matter how we previously thought or interacted. As you heard, I can sing along to what is around me. It is only when I type something in your language that you refer to me as having communication. I smell things. I listen to things. I feel things. I taste things. I look at things. It is not enough to look and listen and taste and smell and feel. I have to do those to the right things, such as look at books and fail to do them to the wrong things, or else people doubt that I am a thinking being. And since their definition of thought defines their definition of personhood so ridiculously much, they doubt that I am a real person as well. I would like to honestly know how many people, if you met me on the street, would believe I heard this. I find it very interesting that the way that failure to learn your language is seen as a deficit, but failure to learn my language is seen as so natural that people like me are officially described as mysterious and puzzling rather than anyone admitting that it is themselves who are confused, not autistic people or other cognitively disabled people who are inherently confusing. We are even viewed as non-communicative if we don't speak the standard language, but other people are not considered non-communicative if they are so oblivious to our own languages as to believe they don't exist. In the end, I want you to know that this has not been intended as a voyeuristic freak show where you get to look at the bizarre workings of the autistic mind. It is meant as a strong statement on the existence and value of many different kinds of thinking and interaction in a world where how close you can appear to a specific one of them determines whether you are seen as a real person, or an adult, or an intelligent person, and in a world in which those determine whether you have any rights. There are people being tortured, people dying, because they are considered non-persons, because their kind of thought is so unusual as to not be considered thought at all. Only when the many shapes of personhood are recognized will justice and human rights be possible.
Ok, je vais finir là. Est-ce qu'il y a des questions?
J'ai juste une question, merci hein, pour exposé très bien. Par rapport au film, comment il a été réalisé, enfin, qui est à l'initiative de qui, est-ce qu'elle a filmé, est-ce que...
Alors, je ne sais pas tellement sur la production du film. C'est à son initiative, ouais, elle est une des... Les importantes personnalités actrices du mouvement politique autour de la question de la neurodiversité aux États-Unis. Et cette vidéo a fait beaucoup de présence, en fait, elle a été diffusée beaucoup dans les années 2000 sur les grands, sur CNN, ça a fait beaucoup de débats, en fait. comme une manière de... Et elle utilise que le clavier pour... Alors, je crois qu'elle a fait... Je crois que c'est sa famille autour d'elle qui ont fait une sorte de qui ont fait la production du vidéo, mais c'est elle qui est tout à fait l'autrice de tous ces films. Et ils ont une vocation militante.
Est-ce qu'elle arrive à communiquer finalement en fait?
Oui. Oui. Ouais, elle utilise notre langage par le clavier, ouais, par le biais du clavier.
La personne qui parlait là, c'était bien elle.
C'est elle, ouais.
Donc elle parle aussi. En fait.
Elle parle, ouais. Ouais, tout à fait. Mais ce que elle utilise, ses capacités d'être en demande, d'une manière, ça rejoue ces questions de traduction que j'ai commencé avec. Ça rejoue, voilà, ça marche là. Bah, bah, bah. Comme j'ai dit, je déteste les micros. Ouais.
There we go.
Big one.
Ta-da. Voilà. Oh, horrible. Je m'entends à mon oreille. Ouais. Elle. Tout le film joue dans ce travail de traduction qui se joue, et c'est là où d'une manière ça rejoue ce que j'ai commencé avec ce que la place de l'anthropologie au sein des sciences occidentales, et comment l'anthropologie a joué à développer un sort de point critique au sein de la modernité par cette articulation de monde, d'autres mondes qui déplace, qui nous désoriente, parce que ça nous donne une autre monde, en fait, de faire monde, une autre manière de faire monde, une autre manière, un autre vocabulaire, une autre cosmologie, une autre façon d'habiter le monde. Et d'une manière, toute la portée critique de l'anthropologie, avec beaucoup de controverses et tout le reste, se joue là-dedans, joue sur cette capacité à provoquer nos habitudes, à nous déplacer nos habitudes. Et là, j'avais sur la présentation, j'avais mis vite le fameux pièce de John Cage, ou le non-pièce de John Cage, 4 minutes 33, pour faire le lien aussi avec toute l'histoire de l'art, ou les arts du 20e, toute une série de mouvements qui essayent d'ouvrir les formes des arts, les formes de... tout ce qui se joue dans les arts, et surtout nos manières, avec John Cage, compositeur américain milieu du 20e, il a beaucoup travaillé pour déjouer nos habitudes de penser de ce que c'était la musique, ce que c'était... compositeur, compositrice de musique, quelle était la différence entre musique et bruit. Finalement, beaucoup travailler sur ce que c'est le son, ce que c'est l'écoute. Et dans cette pièce de 4 minutes 33, ça commence avec le piano ouvert. Et au début de la pièce, il ferme, la personne qui joue la pièce ferme le piano. Pour 4 minutes 33, rien ne se passe. Alors, tout ce qu'on a, chaque fois la pièce est différente en fait. C'est 4 minutes 33 pour écouter autrement, mais avec une écoute qu'on a apportée à une pièce de musique, avec tout ce qui joue là-dedans. Tout à coup, on apporte cette forme d'écoute à juste le son ambiant autour de nous. Il y a tout un jeu de... Et d'une manière... Et ce que Amanda Bagg joue aussi, elle utilise une forme du film pour provoquer ce même déplacement de nos habitudes. Et surtout, de voir les différentes figures de la neurodiversité comme ça rejoue en fait dans toute l'histoire de l'anthropologie aussi, que nos manières avant Malinowski de penser ce que c'était les autres, c'est passer par le sauvage, le primitif, l'aborigène, tous ces termes-là qui se retrouve exactement à ce nœud des sciences, du colonialisme, tout ce jeu de ce que c'était la civilisation et toutes ces manières de penser le monde qui ne sont pas du tout neutres. Et d'une manière, les autistes, surtout les autistes profondes, avec les schizophrènes et tout le reste, ont été mis dans ces catégories du primitif tout le long du XXe, restent là-dedans. Cette notion de primitif a encore pas mal de valence, ce qui me trouble un peu. Mais ouais, pour moi, ce film, il est tellement puissant dans son manière de, surtout dans cette reprise d'une même séquence, de nous montrer nos propres habitudes, nos propres limites de nos manières de penser, de percevoir et d'agir dans le monde. Ça provoque une... Pardon, c'était une très longue...
Ce qui est sûr, c'est qu'elle sent conscience en fait, de la distance entre ce qu'elle fait. Enfin, ce qui est clair, c'est qu'elle. Je ne sais pas si elle peut faire autrement, en fait, mais en même temps, elle est consciente que les autres font différemment. Enfin, c'est très étrange de la voler parce que.
Ouais.
C'est la limite entre deux façons de percevoir, tout en étant consciente que les autres. Elle s'approche du bébé, enfin, de. C'est vrai que moi, quand elle met le stick dans la bouche, ça me donne. C'est bon, les enfants, ils arrivent. C'est très. Assez étrange, cette façon de se positionner. J'arrive pas. C'est presque étonnant qu'elle puisse avoir cette conscience, cette distance par rapport à sa situation.
Ouais, mais c'est. Ouais, c'est une sorte de double conscience. Et c'est celle de. Ouais, c'est celle de l'anthropologue. Assume aussi cette sorte de double personnalité ou cette en anglais il a la notion de negative capability qui est une capacité de tenir en compte deux choses contradictoires ou deux manières d'être contradictoires, et je crois que je crois qu'on a la capacité de on est toujours déjà multiple, ou d'une manière, on est toujours déjà pris dans différentes... C'était quoi l'expression de Céline ? De communauté située d'usagers. On est déjà multiple, en fait. Et là, elle nous manque toute sa dextérité, en fait, et sa finesse dans sa capacité à une traduction.